Bien, je vous propose de suivre l'analyse que j'ai faite de 19 manuels de collège et lycée, 10 manuels pour le lycée et 9 pour le collège, parus de 1999 à 2005. Alors pourquoi analyser les manuels? Parce que le législateur, dans sa grande bienveillance, a fait le pari que les professeurs de terrain manifestaient assez d'intelligence pour lire les instructions officielles comme ils le souhaitaient. Néanmoins, on sait que les concepteurs de manuels sont des prescripteurs. C'est-à-dire que, en particulier auprès des jeunes enseignants que je forme, eh bien, les propositions qu'ils font ont valeur non seulement d'exemple, mais souvent ont valeur de doxa. Et alors que nous savons tous que les concepteurs de manuels sont tiraillés entre leur lecture, leur intelligence des instructions officielles, mais également des impératifs éditoriaux qui font qu'ils vont souvent au plus court et à ce qu'un directeur de collection croit perçoit comme le plus efficace. Donc, je vous propose de travailler, d'analyser avec moi les textes proposés en collège et lycée, les questions posées à ces textes et les tâches écrites. Pour les textes, ce qu'on observe en collège, c'est que les textes du patrimoine sont extrêmement nombreux. Bien entendu, rien ne vous étonnera si je vous dis que Rousseau l'emporte, mais également, comme vous le voyez, les grands textes, Nathalie Sarraute, Chateaubriand, Vallès, Queneau, Charles Julliez et Anne Frank. Alors, bien entendu, de ce point de vue, on peut dire que les concepteurs de manuels de collège pensent que leur mission, leur devoir, c'est de construire une culture partagée, une culture commune. Mais du coup, ils anticipent quelque peu sur les auteurs qui, en général, étaient lus et analysés au lycée, les mêmes auteurs du patrimoine, puisqu'on va retrouver dans les manuels de lycée à la fois Rousseau et quasiment les mêmes extraits, et également les mêmes extraits de Chateaubriand, Sartre. Enfin, voilà la liste que j'ai pu trouver donc dans ces 19 manuels. Avec une question qui se pose pour les enseignants de collège et les enseignants de lycée, quel est l'accueil que les élèves de lycée vont réserver à ces textes patrimoniaux déjà abordés en collège, sans doute oubliés, c'est ce que pensent les professeurs de lycée, mais peut-être pas. Donc le recouvrement des propositions concernant les textes pose problème, selon moi, et devrait poser problème aux concepteurs de manuels. Mais l'on sait bien que sur ce terrain, pour l'instant, le législateur n'a pas de prise, et je ne vais cesser de trouver dommageable cette absence de prise du législateur sur les conceptions de manuels. Alors, ce que j'ai appelé les textes frontières, ce sont des textes de littérature de jeunesse, mais également, au lycée, des textes dans le grand ensemble biographique, des textes comme des biographies d'écrivains, comme des textes réflexifs, qu'on ne peut pas nommer au sens propre texte autobiographique. En 99, donc, sans doute le savez-vous, mais peut-être pas les professeurs ou les formateurs de premier degré, en 99 paraissent les instructions officielles sur indiquant qu'en troisième, on doit travailler sur l'autobiographie. Et en 99, on voit une grande liberté des concepteurs de manuels concernant la littérature de jeunesse. C'est de la grave, je crois, qu'il emporte dans ses propositions de lecture de littérature de jeunesse, quelquefois en lecture cursive, quelquefois ces textes font l'objet d'analyses et sont pris au sérieux et font l'objet du même questionnement, d'ailleurs, que les textes patrimoniaux. Quelques BD que vous connaissez, en particulier celle de Maus, de Spiegelman. En 2003, ce que l'on observe, c'est une réduction extrêmement importante du champ de la littérature de jeunesse. Alors on peut se demander pourquoi. La première réponse qui vient, c'est qu'en 2003 sont venues des instructions officielles sur l'encouragement à la lecture cursive. Et l'on peut penser que les concepteurs de manuels, sans doute, peut-être, avec un facteur d'insistance du côté des directeurs éditoriaux, peut-être ont-ils pensé que la littérature de jeunesse ne pouvait entrer dans les pratiques de lecture que sous la forme de lecture cursive. Mais vous voyez bien que le champ se réduit quasiment de moitié. Entre 1999 et 2003, j'ai à peu près analysé les mêmes manuels édités par par les mêmes éditeurs et non pas par les mêmes auteurs. Tant il est vrai que les éditeurs proposent une sorte de rotation des auteurs de concepteurs de manuels qui est assez, enfin pour ma part, qui me pose problème. Ce qu'on trouve également dans les manuels de 2003, des journaux intimes, des récits d'enfance et des récits de vie. Ce qu'on appelle récits de vie, ce sont des récits largement médiatisés et auxquels les jeunes adolescents ont facilement accès et qui peuvent leur laisser croire, ces adolescents ont 15 ans en troisième, ils ont des envies de lecture adulte, et ce sont ces récits de vie largement médiatisés les confortent dans l'idée que maintenant ils ne sont plus des lecteurs adolescents, des lecteurs de littérature de jeunesse. Sans doute devenir grand, c'est lire aussi ces récits de vie. J'ai demandé à 6 praticiens expérimentés d'indiquer quels étaient les textes qu'ils offraient à leurs élèves. Alors, par praticien expérimenté, j'entends des conseillers pédagogiques et également une formatrice associée à l'IUFM du Midi-Pyrénées. Alors, ce qu'on trouve chez les praticiens expérimentés, c'est l'hypertrophie des auteurs du patrimoine. On peut penser que par conscience professionnelle, sans doute, parce que leurs pratiques sont modélisées, parce qu'elles sont sous le regard de professeurs stagiaires ou sous le regard de professeurs stagiaires en formation, eux aussi prennent de l'avance sur les pratiques de lecture de lycée et donc hypertrophient ces lectures patrimoniales. Néanmoins, lorsqu'ils étudient des textes de littérature de jeunesse, l'on voit qu'ils choisissent dans la littérature de jeunesse ce que Catherine Tourveron appelle des textes réticents ou des textes résistants, et ils les prennent au sérieux. Excusez-moi de faire un peu de publicité pour les écritures de jeu, mais vous trouverez dans les écritures du jeu l'ouvrage donc que j'ai coordonné. Bien des exemples où mes différentes collègues prennent au sérieux « S'apprendra à vivre »,« Voyage à Pitchepoy » et « La barque » et les analysent en œuvre intégrale comme des œuvres patrimoniales parce qu'en effet, elles résistent à des lectures analytiques parfaitement conduites. Au lycée, les textes patrimoniaux que l'on trouve au lycée, dans les derniers manuels, on les voit ici. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'au collège, on ne s'en étonnera pas. Et on trouve toujours et encore donc les confessions. Au lycée, les textes frontières, on en trouve assez peu. Une biographie de Frida Kahlo, l'autobiographie de Frida Kahlo. Bien entendu, si c'est un homme de Primo Levi, davantage pris dans ses aspects argumentatifs, dans l'objet d'étude, alors je ne me souviens plus son titre exact, qui interroge les valeurs, que dans sa dimension autobiographique. Et dans l'écriture ou la vie, très souvent, c'est utilisé comme un métatexte, un texte réflexif sur la manière dont l'écriture, justement, permet de dépasser le traumatisme. C'est une question qu'à la PA en particulier, on se pose avec beaucoup d'acuité. Les questions maintenant, bien les questions, j'ai essayé de les serrer. Un premier ensemble de questions concerne le projet. Au collège en particulier, 4 manuels travaillent sur le projet autobiographique, les enjeux du projet autobiographique, avec un arrière-plan, toujours la visée argumentative que l'on va trouver derrière ces projets autobiographiques. Deuxième série de questions, des questions en pourquoi et comment dans les manuels de collège, pourquoi et comment commencer, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie l'entreprise autobiographique. Alors pourquoi cette série de questions? Bien évidemment, parce que les auteurs, les concepteurs de manuels, réfléchissent aux difficultés qu'ont les élèves à écrire à la première personne et essaient de montrer à l'élève que l'entreprise autobiographique a un certain nombre de visées et des visées qui sont que les élèves peuvent entendre et peuvent prendre pour leur lorsqu'ils écriront à la première personne. On trouve un troisième ensemble dans les manuels de troisième. C'est l'espace du jeu, l'espace autobiographique. Alors, en 99 comme en 2003, c'est Delagrave qui propose un espace autobiographique assez ample, puisque c'est lui et le seul qui travaille sur les autobiographies en deuxième et troisième personne. Les autres manuels étant plus prudents et en première, l'on voit reprendre cette notion d'espace autobiographique qui va jusque à la réflexion sur les mémoires, sur le journal et sur les formes modernes de l'autobiographie. Seule Hachette Éducation travaille l'autofiction au sens et Bordas également sur l'autofiction. En proposition d'écriture, les propositions d'écriture, j'ai essayé de les rassembler en collège et lycée. On trouve des propositions d'écriture sans destinataire au collège, telles que les trois propositions que j'ai mentionnées. L'on sait que l'absence de destinataire pose des problèmes à l'élève de troisième. Si le texte autobiographique est un discours d'adresse, eh bien évidemment, le destinataire doit être inscrit dans la consigne, dans le libellé du sujet. Or, cet aspect de la consigne semble absent de trois des manuels de collège. Mais en lycée, eh bien, on fait exactement les mêmes propositions, même si elles sont plus larges du point de vue du point de vue des éléments de la consigne. L'on voit bien que le destinataire enseignant, le destinataire groupe de pairs, le destinataire futur qui pourrait être le lecteur de ces pages d'autobiographie dans un CDI, ce destinataire est absent. Il semble qu'on ait des écritures flottantes comme ça, comme en apnée, et l'on sait bien que ces écritures-là, ces discours-là, convoquent davantage de stéréotypes que d'écritures incarnées. Au lycée, néanmoins, quelques lanceurs d'écriture sont présents. Des lanceurs d'écriture comme l'Inkipi de votre autobiographie, des lanceurs d'écriture comme une citation d'Amélie Nothomb, qui permet à l'élève d'avoir en mémoire les stratégies des auteurs qu'il a pu lire en troisième comme en lycée, puisque l'Inkipit est un des topos de l'autobiographie que vous connaissez bien et qui obéit à des régularités qui ont été largement analysées en troisième et reprises en classe de première. On a dans les propositions précédentes, on trouvait des véritables autobiographies. On reviendra peut-être sur le terme de véritables autobiographies. En collège et en lycée, on s'autorise à faire des propositions, d'écrire des autobiographies fictives. Autobiographies fictives qui, bien évidemment, ont été ces propositions d'écriture ont été préparées par des questions sur des textes dans lesquels l'auteur composait un jeu qui était un jeu qui endette avec d'autres jeux d'écrivains, et qui avait dans laquelle la part de vérité était sans cesse analysée, était sans cesse présentée comme un problème par les auteurs du manuel. Autre proposition d'écriture en collège, les propositions à la manière d'eux. À la manière d'eux, elles sont intéressantes puisque dans les propositions à la manière d'eux, on trouve systématiquement proposé un modèle des procédés d'écriture qui vont permettre à l'élève de sortir de la question qu'il se pose sans cesse et qui vous a interdit, vous qui preniez la parole et qui m'a interdit également de parler lorsque nous étions plus jeunes, de mentir sur alors que nous n'avions rien à dire des soirées dominicales ou du premier jour de vacances, et on voit que la problématique du mentir vrai est prise en charge par certains manuels, par certains concepteurs, et on le verra tout à l'heure, par beaucoup d'enseignants expérimentés. Elle est prise en charge à la fois en lecture et en écriture. Les praticiens expérimentés les développent tous. Je n'ai rendu compte ici que de 3 propositions, mais on trouve ainsi un degré de plus, sans doute de réflexivité dans leurs propositions, puisque tous s'appuient sur ces mêmes procédés, évalués, inventoriés en lecture pour faire écrire leurs élèves. Les praticiens expérimentés de collège, hein, puisque je n'ai pas réussi à trouver des enseignants de lycée qui acceptent de me donner leurs propositions de lecture ou d'écriture. Les à la manière 2, au lycée, on les trouve beaucoup plus souvent que dans les manuels de collège, sans doute parce que c'est lié à la fortune du sujet d'invention qui permet justement de travailler la modélisation et l'emprunt. Je vais vite, excusez-moi. Au lycée également, ce qu'on trouve très souvent, c'est la proposition construire des autoportraits, peut-être après la lecture d'un ouvrage de Philippe Lejeune dans lequel il en parlait. En tout cas, cet autoportrait, on le voit davantage en lycée, en proposition d'écriture, en collège. On sait bien qu'en collège, ce qui concerne l'autoportrait est très souvent relégué en lecture de l'image, certes intéressante, mais qui ne donne pas souvent lieu à des propositions écrites. Au collège, ce que l'on trouve, c'est la proposition ancestrale, dirais-je, d'écrire ses souvenirs. Marie-France Bishop a bien montré que ses souvenirs faisaient l'objet des premières propositions, des premiers manuels au début du siècle précédent, devons-nous dire aujourd'hui. Les praticiens expérimentés, certes, travaillent les souvenirs, mais chaque fois, vous le voyez, ces souvenirs pénibles ou ces souvenirs heureux sont en relation en parallèle avec un texte littéraire, Léris ou Sarraute. Alors, pour les souvenirs pénibles, on peut dire qu'ils s'inscrivent dans le topos de l'écriture autobiographique. On le sait, les écrivains et nos jeunes écrivains l'ont bien compris. On ne s'autorise à écrire que si on a été trucidé 3 fois dans 3 situations particulièrement horrifiques. Certains praticiens expérimentés essaient de travailler l'écriture du bonheur. Elle est plus difficile à en trouver trace en littérature, et pourtant combien de nos élèves, et sans doute il faut s'en réjouir, sont heureux et sont malheureux de ne pouvoir écrire le bonheur. Au lycée, bien évidemment, toujours en écriture à la première personne, on va trouver des parodies, des interviews imaginaires et des réécritures parodiques. Là également, on peut voir la prolification de ces propositions par rapport à l'écriture d'invention. Peut-être pourrait-on se demander si les collègues, les auteurs de manuels travaillent sur les écritures parodiques que nous proposent, que les collègues de collège proposent en classe de 6e. On pourrait se demander si c'est la reprise de ces écritures parodiques fait l'objet de questions chez les collègues de lycée. En conclusion, la conclusion, elle est un petit peu attristé. Hein. En proposition de texte, l'on voit que les frontières des textes autobiographiques sont mal cernées par les différents concepteurs. L'on peut regretter, parce que moi aussi je suis militante de littérature de jeunesse, qu'elles disparaissent en collège, alors que si je reprends les analyses de Philippe Gasparini, vous avez sans doute lu « Est-il jeu ?» de Philippe Gasparini, et vous avez vu comment il travaille j'ai 30 secondes encore. Comment il travaille les différentes positions, les différentes distances que l'on peut trouver chez les lecteurs de romans, les lecteurs d'autobiographie et les lecteurs de romans autobiographiques. Et il montre que le roman de lecteur autobiographique et la littérature de jeunesse proposent des romans autobiographiques. Enfin, on pourra peut-être se battre tout à l'heure, hein, sur romans autobiographiques, roman du jeu, roman en jeu, etc. Mais il montre que ce lecteur de roman autobiographique, et ce lecteur de roman autobiographique, c'est notre lecteur adolescent de 15 ans. Il est tiraillé entre deux positions. Les premiers rejettent des stratégies malhonnêtes. Hein. Est-ce que c'est vraiment vrai, madame, monsieur, demande-t-il à l'enseignant de collège? Et si on a le malheur de lui répondre, mais non, c'est entièrement faux, il va rejeter ces stratégies malhonnêtes. Et certains, au contraire, adhèrent à l'ambiguïté propre au genre. Et Philippe Gasparini montre bien que dans ce tiraillement entre le rejet d'une écriture non référentielle et l'adhésion à une littérature fictionnelle, eh bien, il y a la construction d'une identification avec un narrateur qui ne cesse, comme le lecteur adolescent, de se poser des questions sur la valeur de cette écriture en jeu, qui est pour une part autobiographique, pour une part fictionnelle. Je lis ce que dit Philippe Gasparini par le biais de l'inquiétude affectant l'identité de celui qui écrit, le narrateur implique le lecteur dans sa propre quête de l'identité du héros, il s'associe à sa démarche d'investigation en lui confiant le rôle essentiel dans la reconstitution hypothétique de personnage. Et dit-il, il est le véritable destinataire de la confidence et il conclut, il quitte la position du destinataire, consommateur et voyeur, pour basculer dans une rêverie narrative dont le livre n'aura fourni qu'un détonateur, une matrice, un prétexte. Et c'est vraiment de cela qui me tenait à cœur pour défendre la littérature de jeunesse ou pour défendre l'autofiction en lycée, cette rêverie narrative qui, me semble-t-il, est celle-là même que, pour ma part, j'essaie de construire chez les lecteurs adolescents de 15 ou de 17 ans.